Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Jocelyne Moussa-Opodé.
Hommage ce lundi à Benny au casque bleu de la MONUSCO, tué jeudi dernier. David Grizzly, chef adjoint de la MONUSCO, et Paul Ignace Mela, ambassadeur de la Tanzanie en RDC, sont sur place. Les installations de l'Assemblée provinciale du Sankuru fermées et gardées par les forces de l'ordre. 4 députés provinciaux provisoirement exclus. C'est là après une bagarre vendredi à l'hémicycle. Gabriel Colongo est l'invité de la rédaction ce matin. Il est chargé de réseau météo au sein de la division provinciale de la Metelsat au Nord Kivu. Bonjour à tous. Nord Kivu pour commencer, cérémonie d'hommage. C'est lundi au casque 15 casques bleus tués jeudi dernier au cours d'une attaque des présumés ADF sur une base de la MONUSCO située sur l'axe Mbao-Kamango dans le territoire de Beni. La cérémonie aura lieu au quartier général de la MONUSCO Beni en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations et l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC. David Grizzly et Paul Ignace Mela sont arrivés dimanche à Beni pour apporter le soutien des Nations Unies au casque bleu tanzanien. Après cette attaque meurtrière, ces deux diplomates se sont également rendus dans la localité de Kamango avant de rendre visite au casque bleu blessé au cours de l'attaque de la base onusienne du pont Semuluki. Et cette attaque a suscité plusieurs réactions dans le pays et au sein de la communauté internationale, des politiques à la société civile. Tous ont condamné fermement cet acte ignoble. Suzanne Nzobo-Odra revient sur ses réactions.
À travers des communiqués, beaucoup ont exigé une enquête afin de traduire les auteurs de cette attaque meurtrière en justice. C'est le cas du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine. Pour quelques politiques congolais et la société civile locale, ces morts dans les rangs des casques bleus et des FRDC sont des morts de trop. Il faut que le gouvernement et la MONUSCO mettent tout en œuvre pour éradiquer les groupes armés actifs dans l'est du pays. Appel notamment du député national Juvenal Munobo, du secrétaire général du RCDK Grégoire Kiro et de la coordination de l'intercommunautaire du Nord Kivu. Pour leur part, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, João Lourenço de l'Angola et Joseph Kabila de la RDC ont réitéré l'appel lancé à la communauté internationale au dernier sommet de la CIRGL à Brazzaville de qualifier la LRA ainsi que les AEDF de groupements terroristes et de les traiter comme tels. Ils l'ont dit à la fin d'un mini-sommet de la conférence internationale de la région des Grands Lacs qui s'est tenue à Brazzaville ce week-end.
Pendant ce temps, 17 femmes ont été violées en moins de 2 semaines dans la collectivité de Salamabila au Maniema. Des chiffres livrés hier dimanche à Radio Kapi par la chef de division du genre et famille dans cette province. Selon cette source, les auteurs de ces viols seraient des militaires FRDC venus dans la zone pour traquer les Maïmaï. Le dernier cas remonte à vendredi dernier. Il s'agit d'une femme enceinte de 8 mois violée dans son domicile. Les femmes de Salamabila lancent un SOS en l'endroit à des autorités de leur province. Écoutez l'une d'elles qui a requis l'anonymat.
Nous sommes à Salamabila. Nous avons une grande difficulté sur le problème de violence sexuelle faite par des hommes armés. Ils attaquent les femmes et surtout les femmes mariées. 17 femmes. Nous avons un problème très sérieux aujourd'hui. Un groupe d'hommes en uniforme ont entré dans une maison d'une femme qui a une grossesse de 8 mois. On l'a violée. Elle est très grave à l'hôpital. Les femmes souffrent beaucoup ici, elles se cachent seulement dans les maisons. Elles ne font aucune activité, elles prennent les hommes armés de FRDC. Nous les femmes, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes très souffrantes ici, mais les femmes sont très mécontentes. Elles demandent aux autorités provinciales de garder leur sécurité.
Selon des sources sur place à Salamabila, une délégation de femmes a conféré avec le chef de secteur qui a promis d'entrer en contact avec la hiérarchie militaire locale concernant ces accusations des viols. Direction le Sankuru où la crise s'intensifie à l'Assemblée provinciale. Le siège de cette institution sous surveillance des forces de l'ordre depuis samedi et ce jusqu'à nouvel ordre. Et les 4 élus provinciaux présumés auteurs de la bagarre à l'hémicycle sont momentanément exclus. Telles sont les retombées des incidents du vendredi dernier, incidents au cours desquels le président du bureau Charles Pongo et le rapporteur Martin Chongo ont failli en venir aux mains. Des précisions sur ces dispositions avec Charles Charles Pongo, président du bureau de l'Assemblée provinciale du Sankoro. Il est joint par Chris Mukand.
Les incidents qui ont eu lieu à Lissambou le vendredi dernier, les assaillants ont été mis hors état de nuire. Certains ont été interpellés. La victime qui a été blessée à la tête sera transférée prochainement pour des soins appropriés à Kinshasa. Un groupe de députés qui avait perdu le contrôle, exigeant une tenue dans la précipitation de la séance plénière, ont été sanctionnés. Un détachement spécial est en train de garder les installations. Aucune personne n'est autorisée à y accéder jusqu'à nouvel ordre. Nous attendons les instructions de la haute hiérarchie pour que nous reprenions nos travaux en beauté. C'est ainsi que je lance un appel au calme et je demande à la population d'évacuer librement ses occupations et d'attendre l'issue de la nouvelle crise qui ne dit pas son nom et qui s'installe à l'Assemblée provinciale de Sankoro.
Notez que nous n'avons pas encore réussi d'entrer en contact avec Martin Chongo, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sankoro, cité dans les incidents de vendredi dernier. Ici, à Kinshasa, élection de Bruno Tshibala à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, El Tshibala. C'est l'une des résolutions du Congrès qui s'est clôturée hier dimanche, ici à Kinshasa. Prenant la parole, Bruno Tshibala s'est engagé à réunifier les membres qui, selon lui, se sont éloignés du parti. Il a affirmé d'organiser des funérailles en mémoire d'Étienne Tshisekedi. Bruno Tshibala, au micro de Paul Matendo.
La nouvelle direction politique de l'UDPS va se réunir dans les heures qui viennent pour se mettre rapidement au travail. Il faut entamer et amplifier l'action de la réunification en organisant des contacts directs avec tous ceux qui s'étaient éloignés du parti. L'UDPS dirige le gouvernement d'Union nationale issu de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Il est donc du devoir de l'UDPS de soutenir sans réserve cet accord politique et toutes les institutions qu'il a mises en place dans notre pays. Pour terminer, Tshisekedi restera pour nous à jamais un modèle à suivre. À ma double qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la RDC et de nouveau président de l'UDPS, je m'engage à œuvrer pour que des obsèques dignes de son rang soit organisé en l'honneur du regretté Tshisekedi wa Mulumba.
Rappelons que le porte-parole de l'UDPS, El Limité, Augustin Kabuya, avait déclaré que Bruno Tshibala s'était déjà auto-exclu de l'UDPS. Par conséquent, il n'a ni qualité ni pouvoir de parler au nom du parti et de convoquer le Congrès. Cette prérogative revient, selon l'article 26 de statut du parti, au secrétaire général. Augustin Kabuya avait alors affirmé, je cite, que Bruno Tshibala est en train de justifier l'argent qu'il a reçu de son nouveau mentor, Joseph Kabila. Fin de citation. En bref, début ce lundi au Sénat de l'examen du projet de loi électorale en seconde lecture. Cet examen est programmé à seulement 4 jours de la date prévue dans les calendriers électoraux pour la promulgation du dit projet de loi. Alors que l'examen et l'adoption de ce texte devraient être faits dans l'urgence, les députés de l'opposition qui avaient boycotté le vote de ce projet de loi ont désespéré voir le Sénat sauver la République en rejetant ces textes. Affaire passeport biométrique, nous en reparlons ce matin. En début novembre dernier, un arrêté interministériel signé conjointement par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances fixait le vrai taux d'acquisition du nouveau passeport biométrique congolais. D'après cet arrêté, pour remplacer son passeport en cours de validité, le requérant devrait payer l'équivalent de $100, tandis que tous ceux qui veulent se procurer ce nouveau passeport doivent verser l'équivalent de $185. Cependant, sur le terrain, les Congolais assistent à une sorte d'escroquerie érigée en mode officiel dans le processus d'acquisition de ce nouveau passeport. Reportage Jacques-Yves Molima.
Sur le terrain tennis, pour avoir ces documents entre ses mains à Kinshasa en RDC, il faut savoir secouer ses poches au-delà de l'officiel. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le vit, mais personne ne s'en plaint, personne ne le dénonce. Le processus est soit long, soit moyen, soit court, au prorata des moyens du requérant. Tout un réseau bien ficelé, savamment orchestré et organisé fonctionne d'un bureau à un autre au sein de l'administration du ministère des Affaires étrangères. D'après certains requérants qui ont requis l'anonymat, du guichet de la banque en passant par le bureau des services de renseignement pour arriver à la capture, tes 100 ou tes 185 dollars versés à la banque ne suffisent pas. Il faut savoir soudoyer les préposés de l'État, pourtant engagés et payés par l'argent du contribuable, pour voir son dossier évoluer à merveille. Parfois même, il y a des intermédiaires non fonctionnaires de l'État, mais qui surgissent avec la bénédiction de certains hauts gradés pour soi-disant vous aider dans votre parcours. Ceux qui connaissent les jeux obtiennent le passeport parfois en un seul jour, mais en versant près de 250 à 300 dollars américains. Les citoyens qui ne se livrent pas à ce jeu, malheureusement, passent des jours et des jours d'attente avant d'obtenir ce passeport biométrique.
Parlons également de ce recouvrement forcé de la taxe de vignette pour l'année 2016-2017 annoncée pour ce lundi dans la ville de Kinshasa. Les propriétaires des véhicules et motos non en règle sont sommés de s'acquitter de leurs devoirs civiques. La police nationale congolaise a été réquisitionnée par le gouvernement provincial pour ce faire. Reportage de Paul Matendo.
Pour la journée de ce lundi, les policiers vont sensibiliser les conducteurs au paiement de cette vignette, affirme le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Mais dépassé ce délai, le général Silvano Kasongo promet que les véhicules non en règle seront saisis et conduits à la fourrière jusqu'au paiement de cette taxe.
Demain, on peut laisser la population de s'acquitter. On les a donné les délais demain, parce qu'ils avaient tout le temps. Demain, on peut sensibiliser. À partir de mardi, on commence vraiment à arrêter. Il y aura des officiers dans chaque carrefour pour qu'on ne crée pas de dérapage.
Si beaucoup de conducteurs savent que payer la taxe est un devoir civique et que les recettes de la vignette donnent au gouvernement provincial les moyens de sa politique, certains s'interrogent encore.
Cette fois-ci, nous sommes déterminés. Nous ne paierons pas cette taxe. Quelle route a-t-il déjà réhabilité? Nous n'avons pas encore fini à payer la première taxe, mais il faut encore payer une autre. Nous sommes fatigués.
Ce recouvrement forcé a été décidé par le gouverneur André Kimbuta pour renflouer les caisses de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, rapporte le patron de la police.
Retour au Nord Kivu, l'ONG des défenses des droits de l'homme et des développements dans les territoires de Nirangongo, Akadepa, Zabori 133, lance un cri d'alarme aux autorités congolaises de penser à la construction des structures de santé pour le bien-être des habitants de cette partie du Nord Kivu. Pour cette organisation locale, actuellement, les habitants du territoire de Nirangongo sont estimés à plus de 199 000 et sont desservis par cette structure sanitaire seulement, ce qui leur pose un problème d'accès aux soins de santé. On écoute Boseni Bamoui Muzungu, président du conseil d'administration de cette ONG à Kadepa, à Zabori 133, au micro de Denis Lukeso.
Selon les normes de l'OMS, entre 3 000 et 5 000 habitants doivent avoir une structure sanitaire, dont un centre de santé. Alors, les conséquences sont que la communauté n'a pas l'accès à la santé directe, les femmes enceintes sont plus victimes du trajet. Et surtout, le groupement de Munigi, qui a plus de 65 000 habitants, qui a des structures sanitaires.
Et qu'est-ce que vous recommandez aux autorités au regard de ces problèmes?
Il faut que le gouvernement provincial, tant que national, puisse venir assister en construisant autres structures sanitaires pour que la communauté doive avoir l'accès à la santé.
Actualité Afrique Monde.
Au Kenya, l'investiture parallèle de Raila Odinga est reportée sine die. Le leader de l'opposition, qui ne reconnaît pas la victoire d'Uhuru Kenyatta, avait annoncé la tenue d'une investiture mardi, le 12 décembre, jour de la fête de l'indépendance, laissant craindre des nouveaux affrontements entre les partisans de l'opposition et la police. Mais suite à de nombreuses pressions, l'opposant historique a finalement reculé. Au Maroc, des milliers de personnes ont répondu hier dimanche à l'appel à manifester à Rabat, capitale marocaine, pour contester la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une option rejetée par la communauté internationale. Le Fatah, principal mouvement palestinien du président Mahmoud Abbas, appelle à poursuivre ces manifestations et à les élargir.